Chapitre 9. Jugement et projet. Le jour suivant, M. Hervé alla chez le docteur X et le pria de l'accompagner chez Lady Delacour. « Pour être présenté à votre muse tragique, lui dit le docteur. « Oui, reprit Hervé, je veux avoir votre opinion sur une jeune dame que vous trouverez chez elle. « Est-elle belle ?»« Charmante. »« Jeune ?»« Oui. »« A-t-elle de la grâce ?» Plus que personne au monde. Jeune, belle, remplie de grâce, je commence à me méfier de vous, dit le docteur, si j'allais lui trouver 1000 défauts qui compensassent chez elle tant de perfection. 1000 défauts ? S'écria vivement Clarence, vous êtes charitable. Eh bien, reprit le docteur, pour vous punir de votre vivacité, on aurait-elle 1 million, je veux les voir avec les yeux d'un flatteur et non d'un ami. Je vous défie, dit Hervé, d'être aussi bon ou aussi méchant que vos paroles. Vous avez trop de raisons pour être un bon flatteur. Et peut-être, dit le docteur, trop aussi pour faire un bon ami. Pensez-vous ? Non pas, mais mon cher docteur, j'espère que vous ne serez pas prévenu contre Belinda parce qu'elle est avec Lady Delacour. Je suis certain, et j'ai la preuve, qu'elle n'a aucune influence sur ses pensées et ses actions. C'est très possible, interrompit le docteur X. Mais avant d'aller plus loin, faites-moi le plaisir de me dire de quelle Belinda vous parlez. De Belinda Portman. J'oubliais que vous ne la connaissiez pas. Miss Portman, une nièce de Madame Stanhope. Oui, mais que cela ne vous prévienne pas encore contre elle, comme je l'ai été moi-même. Vous m'excuserez, Harvey, si je suis plutôt votre premier exemple que votre nouvelle opinion. « Non, reprit Clarence, mon opinion vaut mieux. » Lady Delacour reçut le docteur X avec grâce et remercia Clarence Hervé de lui avoir présenté une personne qu'elle désirait connaître depuis longtemps. Le docteur X avait une grande réputation littéraire et elle vit qu'il y joignait toutes les qualités d'un homme du monde. Son amour-propre se piqua d'exciter son admiration. Elle s'aperçut aussi qu'Hervé avait une grande confiance en ses conseils et ce fut pour elle un motif suffisant de chercher à lui donner une bonne opinion de son caractère. Les manières et la conversation du docteur plurent surtout à Belinda. Il la remarquait et elle voulut lui plaire. Mais elle avait trop d'esprit et de bon goût pour prévenir sa pénétration en étalant à ses yeux toutes ses connaissances et pour aller au-devant de ses regards en se parant de toutes ses grâces. Un homme délicat qui a quelques connaissances du monde et qui possède le charme de la conversation sait aisément apprécier ceux avec lesquels il cause. Le docteur X possédait ce talent au suprême degré. « Eh bien, dit Clarence en sortant, que pensez-vous de Lady Delacour ?»« Je suis ébloui par une trop grande lumière, répondit le docteur. « Cette dame est très brillante, docteur, mais j'espère qu'elle n'a pas effacé Miss Portman. » Non, j'ai détourné mes yeux de Lady Delacour sur Miss Portman comme un peintre cherche à reposer les siens sur une teinte douce et fraîche quand ils ont été fatigués par des couleurs trop éblouissantes. Je craignais, dit Hervé, que vous n'eussiez trouvé ces manières trop réservées et trop froides. Mais tant mieux, de jour en jour nous découvrirons avec plus de plaisir les fleurs charmantes que cache cette neige. C'est une espérance très poétique, dit le docteur X. Mais dans notre jugement sur le caractère des hommes, nous ne devons pas nous en rapporter entièrement à l'analogie qu'ils peuvent avoir avec le règne végétal. « Comment ? » s'écria Hervé en fixant le docteur. « Que voulez-vous dire ? Belinda vous aurait-elle déplu ? » ?»« Vos craintes comme vos espérances sont trop promptes, cher Hervé. Pour vous tirer de peine, je vous dirai que tout ce que j'ai vu d'elle me plaît. » Mais je ne puis avoir une opinion arrêtée sur le caractère d'une femme après une seule visite. Les femmes, comme les hommes, parlent d'une manière et agissent de l'autre. Il faut que je suive les actions de Belinda et que je l'étudie avant de vous donner mon opinion sur elle. Lady Delacour m'a prié de revenir le plus souvent que je pourrai. C'est pour vous, mon cher Hervé, que je veux lui obéir ponctuellement afin d'avoir plus d'occasion de connaître Miss Portman. » Hervé lui en témoigna vivement sa reconnaissance. La première conversation du docteur avait plu à Belinda, et plus elle le vit, plus elle aima sa société. Elle éprouva qu'il avait développé son esprit et que, sans employer la flatterie, il avait su, par sa grâce et son adresse, lui donner plus de confiance en elle-même. Peu à peu, elle parvint au point de le regarder comme son ami. Elle épanchait ingénument avec lui son opinion sur tout ce qui la frappait et trouvait un plaisir infini à s'instruire par ses observations sur l'esprit et la tournure des personnes que recevait Lady Delacour. Elle put juger de la sincère amitié du docteur, non seulement par celle qui lui témoignait, mais surtout par sa manière d'être envers les autres. Un soir, dans une société choisie, chez Lady Delacour, un gentilhomme espagnol attirait l'attention de la société en racontant des anecdotes sur la passion que montraient quelques-uns de ses compatriotes pour le jeu d'échecs. Il cita plusieurs familles où des parties n'ayant pas été terminées et ayant survécu aux joueurs étaient continuées par leurs fils et où la victoire restait douteuse pendant une centaine d'années. M. Hervé observa que le gain d'une bataille était alors si commun pour les Espagnols qu'une victoire aux échecs semblait devoir être plus éclatante et donner une plus grande réputation, et qu'un abbé, ayant perdu adroitement une partie d'échecs avec un ministre espagnol, y avait gagné le chapeau de cardinal. L'étranger fut charmé de la manière avec laquelle Hervé avait amené cette anecdote. Il l'attaqua en français et en italien. Il connaissait à fond ces deux langues. Mais Clarence les savait mieux encore, de sorte que l'étranger, qui d'abord avait attiré sur lui l'attention générale, fut bientôt effacé par Hervé. Une dissertation savante sur le jeu d'échecs s'étant entamée, notre héros s'y distingua et l'emporta sur son adversaire. Son ami, le docteur X, fut surpris de l'étendue de ses connaissances. Les dames admirèrent son goût comme poète, les hommes sa justesse d'esprit comme critique. Lady Delacour l'applaudit hautement et Belinda l'approuva en silence. Le gentilhomme espagnol lui demanda si, au jeu d'échecs, sa pratique était aussi bonne que sa théorie. Clarence avait l'amour-propre de réussir en toute chose, il accepta, et pendant qu'ils rangeaient leurs pièces, Lady Delacour s'écria que le prix de la victoire serait le jeu d'échecs, faisant allusion à un trait pareil de la reine Élisabeth pour Raleigh et Essex, ses favoris. Le combat commença, mais la présence de Belinda ayant distrait l'attention d'Hervé, il fit quelques fautes qui donnèrent à l'Espagnol une faible idée du talent de son adversaire. Belinda changea de place et Clarence, n'ayant plus son attention partagée, prouva qu'il n'était pas un ennemi qu'on dût dédaigner. Le combat fut long, mais à la surprise de tout le monde, Hervé resta maître du champ de bataille. Glorieux de ce succès, il chercha Lady Delacour, de qui il devait recevoir les honneurs du triomphe. Elle était sortie. Elle reparut bientôt après, vêtue comme la reine Élisabeth, avec l'antique costume de ce temps. Clarence, se jetant à ses genoux, lui fit un discours dans ce style fleuri dont Essex et Raleigh s'observaient avec Élisabeth. Bientôt, la coquetterie fit oublier à la reine la dignité de son rôle. Car le courtisan parut aussi transporté de sa faveur que la vanité de sa souveraine pouvait le désirer. Les caractères furent bien soutenus. Les personnages s'animèrent tellement et furent si pleins de leur rôle qu'ils parurent oublier les spectateurs. Clarence rentra bientôt en lui-même en voyant la rougeur qui couvrit les joues de Belinda quand la reine la désigna comme une de ces dames d'honneur dont elle était jalouse. Il s'aperçut que la chaleur de la conversation l'avait emporté plus loin qu'il n'avait voulu. Il était difficile de résister à une reine qui faisait des avances. Mais Sir Walter Raleigh, s'adressant tout d'un coup avec une présence d'esprit admirable au gentilhomme comme à l'ambassadeur d'Espagne, « Votre Excellence sait, dit-il, combien cette grande reine tourne la tête de ses heureux sujets et possède l'art de ne les payer qu'en paroles. » Le Nouveau Monde vous a-t-il rien donné de plus précieux ? » L'ambassadeur espagnol répondit gravement à cette apostrophe, donna par là un nouveau tour à la conversation et tira Clarence d'embarras. Alors Lady Delacour et la société passèrent dans un autre appartement voisin pour y voir le portrait de la reine Marie. Hervé resta avec Belinda et le docteur qui, à la prière de la jeune miss, lui donnait une leçon d'échec. « Lady Delacour a un esprit charmant, » dit Clarence. « Elle inspire de la gaieté à tout le monde. »« À tout le monde. Elle me porte plutôt à la mélancolie, dit le docteur. Cette gaieté si bruyante ne me paraît pas tout à fait naturelle. La vivacité que donnent la jeunesse et la santé me charme toujours. Mais cette gaieté extraordinaire semblerait prouver que son esprit cherche à l'étourdir sur sa santé. La pénétration du docteur le fit tant approcher de la vérité que Belinda, craignant qu'on ne devinât le secret de son ami, n'osa plus lever les yeux. Lady de la cour, poursuivit le docteur, semble être dans une agitation perpétuelle de corps et d'esprit. J'ignore encore auquel des deux l'attribuer. Mais comme médecin, j'ai quelque curiosité de savoir si c'est à l'un ou à l'autre qu'il faut s'en prendre. Si je pouvais tâter son pouls, je l'aurais bientôt deviné. Mais je lui ai entendu dire qu'elle ne pouvait le souffrir, et une femme n'a de répugnance invincible que pour de bonnes raisons. Il faut lui dérober son secret, dit Clarence, et je puis vous donner un moyen de compter les battements de son pouls sans qu'elle s'en doute, sans qu'elle vous voie. En vérité, Clarence, dites-moi comment, cela pourra m'être utile. Êtes-vous raisonnable, monsieur Hervé ? Dit Belinda. Mon secret est bien simple, reprit-il, et je suis surpris que vous ne l'ayez pas deviné. N'est-il pas possible de compter les pulsations par l'agitation de la poitrine ? En vérité, dit le docteur, vous faites vraiment un usage trop sérieux d'une futile observation. Le docteur s'arrêta, regarda autour de lui. « On ne peut pas nous entendre, » dit-il. Puis, fixant Clarence, « Quel dommage, monsieur Hervé, qu'un jeune homme qui a tant de mérite et de discernement, qui réussirait à tout ce qu'il entreprendrait, ne veuille être rien dans le monde. Pardonnez-moi l'expression, qu'il n'attache qu'à de petits succès un esprit qui serait si propre aux grandes choses. Devrait-il employer ses moyens à acquérir une frivole supériorité quand ces mêmes efforts, dirigés vers un but plus élevé, lui donneraient la place la plus distinguée parmi les premiers hommes de son pays? Doit-il rester dans l'inaction celui qui, par ses talents naturels et acquis, peut se faire une si brillante réputation? Celui qui, ambitionnant un prix plus noble, plus désintéressé, plus grand encore que la gloire, peut être si utile et concourir si efficacement au bonheur de son pays? Se choisira-t-il un salon pour théâtre, se contentera-t-il des frivoles succès qu'il y obtiendra, l'homme qui, sur la scène du monde, s'attirerait les regards et mériterait l'admiration de tous ses semblables. Enfin, celui qui peut être si grand en public, si heureux dans sa vie privée, peut-il perdre ainsi les plus belles années de sa vie ? Cela peut s'appeler un sermon, dit Hervé. Non, en vérité, reprit le docteur. Je me sers seulement des expressions les plus fortes pour vous peindre ma pensée. Et pour qu'il vous fasse impression, mon cœur seul vous parle. Pardonnez-lui s'il vous a déplu. Vous pardonnez ? Dit Hervé en lui serrant la main. Vos conseils sont excellents, votre conduite est meilleure encore. Vous avez excité mon ambition. J'ai perdu quelques années, mais l'expérience me reste. Je ne me flatte pas de mériter un jour, par mes talents, la reconnaissance de mes concitoyens. Mais je ferai ce que je pourrai, mon excellent ami. Si j'ai quelques succès en public, si je suis heureux dans mon intérieur, c'est vous que j'en remercierai. » Belinda fut touchée de la modestie et des sentiments de Clarence. Son caractère se montrait à elle dans un nouveau jour. Elle était fière d'avoir deviné son mérite et, dès ce moment, la présence et la conversation d'Hervé lui firent éprouver un plaisir qu'elle n'avait pas encore connu. Le lendemain matin, Sir Philip Baddeley et M. Rochefort firent une visite à Lady de la Cour. Ils y trouvèrent M. Hervé. Milady était enfermée avec Mistress Frank. Belinda resta seule avec ces messieurs. « Ah, te voilà, Clarence !» s'écria Sir Philip. « Diable m'emporte si nous ne te croyons pas perdu depuis que tu es tombé dans l'eau. Pourquoi n'es-tu pas venu dîner avec nous ? Nous avons été diablement gais. » Mais nous étions au désespoir de ton saut périlleux dans la rivière Serpentine. N'est-ce pas, Rochefort, que nous en avons été diablement désolés ? Ah, messieurs, dit Clarence avec ironie, vous n'avez pas besoin de chercher à me convaincre de la réalité de votre désespoir. Pensez-vous que je puisse jamais oublier le dévouement généreux qui vous porta à vous précipiter courageusement dans la rivière pour sauver votre ami ? « Je crois, le diable m'emporte, que Clarence nous raille, » dit Sir Philip. « Il a pris du ton de ce docteur qu'il aime tant. Dis-moi donc, Clarence, quand nous sacrifieras-tu ?
Le docteur Hitz est cependant un homme bien aimable, dit Belinda, et...
Sais-tu, interrompit Rochefort, que sur mon honneur, nous te bannirons de notre joyeux club si tu as des amis aussi sévères et aussi sérieux.
Ce sera me faire honneur, messieurs, repartit Hervé, si votre club me juge digne de l'ostracisme. Le petit séjour que j'ai fait dans l'eau m'a donné une grande leçon, Sir Philippe. J'ai senti depuis ce moment la différence qui existe entre de vrais amis et de simples connaissances. Ne comptez jamais me faire renoncer au plaisir de voir le docteur X.
Adieu donc, Clarence, dirent ces messieurs. Vous n'êtes plus des nôtres.
Tant pis et tant mieux, reprit Hervé. Adieu, messieurs.
Sir Philippe et Rochefort sortirent aussitôt. Dès qu'ils furent partis, Clarence se tourna involontairement vers Belinda et crut lire dans ses regards qu'elle approuvait pleinement sa conduite.
Ils sont enfin partis, dit Lady de la Cour en entrant dans le salon. Ils sont restés bien longtemps, et Mistress France m'a rendu un grand service en me débarrassant d'eux. J'ai tant d'affaires ce matin qu'à peine ai-je un moment à donner à l'esprit et à Clarence Hervé. Ma chère Belinda, auriez-vous la bonté de lire ces lettres avec moi ? Mariette prétend qu'elles sont dans mon écritoire depuis 8 jours. Je ne puis me décider à les ouvrir. Le docteur X a raison, nous sommes punis de notre indolence. En négligeant nos devoirs, ils s'accumulent et deviennent au-dessus de nos forces. Votre amie, Clarence, réunit l'esprit à la sagesse, ce qui est bien rare.
Hélas, dit-elle en soupirant, avec un ami comme le docteur X, j'aurais pu sans vanité prétendre à un tel éloge.
Ces mots firent une grande impression sur l'âme bienveillante de Clarence. Pourquoi ne pourrait-elle pas se corriger ? Se dit-il à lui-même. Mistress Margaretha de la Cour se trompe quand elle croit que Lady de la Cour manque de sensibilité.
Qu'avez-vous donc, ma chère Belinda ? Il me semble que vous lisez quelque chose de bien pathétique, dit Milady en prenant la lettre que tenait Belinda.
Hélène de la Cour. Oh, les lettres d'enfant sont mon antipathie. Je me suis fait la loi de ne jamais lire les épîtres d'Hélène.
De grâce, faites aujourd'hui exception à cette règle. Cette lettre en vaut la peine. Miss de la Cour a, comme sa mère, l'éloquence du billet. Miss Portman possède en partage la magie de la persuasion, car il semble impossible de lui résister. N'est-ce pas compliment pour compliment, ma chère ? Voyons donc le style charmant d'Hélène. C'est réellement très bien. Où cette petite fille a-t-elle appris à écrire ? Je vous proteste que je veux qu'elle vienne avec moi cet été, après la fête. J'aurai le temps de m'en occuper. Mais cependant, nous quitterons alors la ville, et que pourrais-je faire d'elle à Harrogate ? Oh, elle est mieux avec sa langoureuse tante. Ces gens méthodiques sont des amis si commodes. Je crois que Mistress Margaretha a de l'antipathie pour moi, parce que nous ne nous ressemblons pas. Mais heureusement que sa haine ne s'étend pas sur ma fille. Elle aime Hélène à la folie et c'est, je crois, pour me surpasser en quelque chose. Il faudra bien que je l'égale un jour, mais en attendant, elle me sauve beaucoup d'embarras. Ainsi va le monde, Clarence. Mais qu'avez-vous donc ? Votre air sérieux m'épouvante.
De grâce, Milady, reprit Clarence en sortant de sa rêverie. Dites-moi quand vous irez à Harrogate.
Vous changez rapidement de conversation. Je n'ai pas encore arrêté le moment de notre départ, mais dans tous les cas, j'espère que vous voudrez bien y venir avec nous.
Clarence la remercia et prit congé d'elle.
Eh bien, ma chère, dit Lady de la Cour, vous ne quittez pas la lettre d'Hélène ?
J'imagine que Milady ne l'a pas finie, répondit Belinda.
Non, je crains d'y trouver une foule de questions auxquelles il me serait trop ennuyeux de répondre.
Avez-vous que Mistress de la Cour est malade ?
Pauvre femme, dit Lady de la Cour, elle mourra bientôt et j'aurai Hélène sur les bras, à moins que quelque autre ami du même genre ne veuille s'en charger.
Il me semble que Lady Anne Percival l'aime extrêmement.
Oh, j'ai vu quelquefois Lady Anne, interrompit Lady de la Cour. Hélène m'a parlé d'elle dans quelques-unes de ses lettres.
Vous les lisez donc quelquefois ?
Oui, à moitié, mais jamais d'un bout à l'autre, dit en riant Milady.
Pourquoi prendre plaisir à vous faire plus méchante que vous n'êtes ? Lui dit Belinda en prenant sa main avec amitié. Parce que je serais désolée de ressembler à ceux qui s'obstinent à paraître meilleurs qu'ils ne sont. Quoi qu'il en soit, j'aime à penser que la bonté de Lady Anne pour ma fille lui est inspirée par M. Percival. Cela me prouve qu'il ne m'a pas oubliée, car autrement, pourquoi sa femme s'occuperait-elle autant de ma fille ? Il me semble que ce n'est pas à Milady à croire qu'un mari puisse nécessairement influencer les actions de sa femme. Non, pas nécessairement, mais involontairement. Quand on prend le parti d'aimer son mari, on finit par obéir, soit par principe, soit par sentiment. Vous m'entendez à présent. Au reste, je n'ai aucune obligation à Lady Anne Percival de son obligeance pour Hélène. Je la regarde comme un acte de soumission de sa part. D'ailleurs, elle est récompensée quand on dit d'elle « Lady Anne Percival est la meilleure femme du monde, c'est le modèle des femmes ». Je hais ces froides perfections. J'espère bien ne voir jamais cette Lady Anne. Je me sens disposée à la détester plus que tout autre. Je me sens disposée à la détester plus que tout autre, sans en accepter Mistress Luttridge. Belinda fut surprise et choquée de la manière avec laquelle Lady de la Cour interprétait la généreuse pitié de Lady Anne. Elle essaya en vain de changer son opinion sur Lady Percival. C'était une femme d'un mérite distingué. Elle avait excité la jalousie de Lady de la Cour. Celle-ci n'écoutait jamais la raison. « Vous m'avez appelé votre amie, dit Belinda, et je serais indigne de ce nom si je n'avais pas le courage de vous dire la vérité et de vous faire sentir quand vous avez tort. Et moi, je n'ai pas la force de vous écouter, ma chère, dit Lady de la Cour. Ainsi, votre amitié n'aura rien à se reprocher. » Supposez que vous ayez dit tout ce qu'il y aurait de raisonnable, de bon et de sublime à dire, et que vous ayez mérité d'être appelée la meilleure amie. Mais je vous avertis que toutes vos représentations seront inutiles, que mon amitié et mon estime seront votre seule récompense. Vous gémissez de mes folies. Hélas, ma chère, ce n'est pas la peine de me corriger. Mes folies passeront bientôt avec moi. Si vous avez un peu d'humanité, vous ne me forcerez pas à réfléchir. Parlons plutôt du jour de la naissance du roi ou de la nouvelle pièce que nous devons voir ce soir ou de la figure ridicule que Lady H faisait au concert ou bien parlons d'Arrogate. La pitié succéda dans le cœur de Belinda au mépris que lui avaient inspiré les propos de Lady de la Cour et elle ne put même pas retenir ses larmes en songeant que cette malheureuse femme cherchait à cacher, par une gaieté forcée, les peines réelles de son âme. Elle lui dit « Ma chère Lady de la Cour, ne croyez-vous pas que la douceur et la tendresse de votre petite Hélène ajouteraient à votre bonheur si elle était près de vous ?»« La disposition affectueuse de son caractère ne me sert à rien, » dit Lady de la Cour. Belinda sentit une larme brûlante tomber sur sa main. « Pouvez-vous être étonnée, » dit Lady de la Cour en essuyant précipitamment ses pleurs, « que je déteste Lady Anne Percival ?» Vous voyez qu'elle m'a ôté la tendresse de mon enfant. Hélène demande de revenir avec moi, oui, mais comment le demande-t-elle ? Avec froideur, indifférence et comme par devoir. Regardez à la fin de sa lettre. Je l'ai lue tout entière, j'ai pesé chacun de ses mots. Comme son style est changé. Voyez comme elle s'interrompt quand elle parle de moi pour m'entretenir des bontés de Lady Anne. C'est alors que son cœur s'épanche. Lady Anne, dit-elle, lui offre de la mener à Oakley Park. Elle serait très heureuse d'y aller, si cela me convenait. Oui, qu'elle s'éloigne de moi autant que possible, que jamais elle ne revoie sa malheureuse mère. Écrivez, dit Lady de la Cour en se tournant vivement vers Belinda, écrivez-lui en mon nom qu'elle parte pour Oakley Park et que je lui souhaite tout le bonheur qu'elle s'y promet. Mais pourquoi pensez-vous qu'Hélène ne peut être heureuse auprès de vous ? Dit Belinda. Voyez-la et vous la jugerez alors plus favorablement. Non, dit Lady de la Cour, non, il est trop tard. J'ai perdu mes droits à l'affection de ma fille et je ne consentirai jamais à la supplier de me les rendre. L'orgueil, le chagrin et la colère se peignaient dans ses traits. En disant ces mots, elle détourna la tête et se promena dans la chambre avec fierté. Il ne me reste rien à faire, dit Belinda, que d'adoucir ce caractère impérieux. Toute autre espérance serait vaine. Clarence Hervé, qui ne se doutait pas que la brillante et spirituelle Lady de la Cour touchait à sa fin, avait formé un projet digne de l'ardeur bienfaisante de son caractère. La manière dont Lady de la Cour avait parlé au docteur X, la réflexion qu'elle fit alors en soupirant sur le bonheur d'avoir un véritable ami qui puisse nous diriger par des avis salutaires, touchèrent vivement Hervé. Jusqu'à ce moment, il n'avait regardé Lady de la Cour que comme une femme de beaucoup d'esprit et elle l'amusait. Sa société, son goût pour les plaisirs, rendaient sa maison charmante. Mais jamais il ne s'était assez intéressé à elle pour désirer son bonheur. Il résolut, d'après cette conversation, d'employer toute son influence sur elle pour dissiper ses chagrins. Il n'était ni assez fat, ni assez dupe pour croire que Lady de la Cour eût de l'amour pour lui. Il voyait bien qu'elle ne désirait que son admiration, et il voulut lui prouver que cette admiration ne pouvait être que la suite de son estime. Clarence avait l'âme vraiment généreuse. Il était capable de faire les plus grands sacrifices lorsqu'ils avaient pour but une bonne action. Il se détermina donc à retarder l'aveu de ses sentiments à Belinda afin de se livrer entièrement à l'accomplissement de son nouveau projet. Le plan qu'il avait formé était de détacher par degrés Lady de la Cour du tourbillon où elle se laissait entraîner. Et les moyens dont il voulait se servir étaient de la ramener à sa fille et à Lady Anne Percival. Il saisissait avec avidité l'espoir qui lui était offert, mais ses résolutions, quoique promptes, n'en étaient pas moins durables. En sortant de chez Lady de la Cour, il vola chez le docteur X et il lui fit part de ses desseins. Vos intentions sont louables, lui dit le docteur, mais avez-vous la folle présomption de penser qu'un jeune homme de 28 ans réformera une coquette de 38 ? Lady de la Cour n'a encore que 36 ans, dit Clarence. Et d'ailleurs, plus elle serait âgée, plus je serais sûr de réussir. Elle a un jugement sûr et l'esprit très juste. J'espère qu'aussitôt qu'elle aura connu Lady Anne Percival, elle saura l'apprécier et sentira combien elle s'est trompée en prenant la route des chimères pour arriver au bonheur. Toute la difficulté consiste à les rapprocher adroitement l'une de l'autre, et je compte bien sur vous, mon cher docteur, pour réussir dans cette délicate négociation. Ayez la bonté de préparer Lady Percival à supporter les défauts de Lady de la Cour, et de mon côté, je tâcherai de préparer Lady de la Cour à souffrir les vertus de Lady Anne. Vous avez généreusement pris la tâche la plus difficile, répondit le docteur. Eh bien, nous verrons ce qu'il faudra faire. Après le jour de la naissance du roi, Lady de la Cour doit aller à Harrogate. Oakley Park n'en est pas loin. Ainsi, ces deux dames auront de fréquentes occasions de se voir. Mais, croyez-moi, rien ne peut être fait avant ce jour. Car, dans ce moment-ci, la tête de Lady de la Cour n'est remplie que de bonnets, de tuniques, de fleurs, de chevaux, de voitures, et du désir qu'elle a d'effacer une certaine Madame Luttridge qu'elle hait à la mort.